Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Vanessa. Comment vas-tu?
Ça va bien, Nicolas Loïc. Et toi?
Très bien aussi. On fait un retour sur ta conférence humaine, qui est un sujet qu'on affectionne bien de parler ensemble en plus. C'est ça qui est encore plus merveilleux. Sur lequel tu amenais l'essentiel de cette habilité-là qu'on n'a pas. Parce que tu as commencé très fort d'ailleurs en disant que toi-même, tu avais rencontré une situation conflictuelle dans un très vieil emploi dans lequel vous n'étiez pas capable de vous comprendre. Donc, tu es parti de celle-là pour nous amener à voir l'importance de ça. Ça a été très bien reçu par ailleurs parce que les gens vivent beaucoup ce que tu vis aussi. Je vais te laisser amorcer un peu là-dessus, puis je pense que je vais partager aussi mon expérience parce que moi aussi, j'ai été dans un contexte de confrontation. Est-ce que c'est un 6 ou c'est un 9? Ben, c'était pas tout le temps clair. On ne s'entendait pas tout le temps sur cette situation.
Oui, tout à fait. D'entrée de jeu, j'ai commencé ma conférence en disant que souvent dans le domaine de la cybersécurité, on parle de l'humain comme le maillon le plus faible. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Puis moi, ce que j'ai mentionné, c'est que je préférais parler de l'humain comme le maillon le plus complexe. Et je trouve que ça met bien la table parce que l'être humain, il est complexe, mais il est complexe aussi dans son mode de fonctionnement, son mode de pensée, dans ses perceptions. Mais quand on travaille dans des domaines techniques comme les nôtres, on a tendance à l'oublier, ce volet humain-là. Puis, de par tes expériences, de par mes expériences, on se rend éventuellement compte que c'est fondamental pour éviter les conflits de perception. Je sais pas si c'est la sagesse qui parle, mais au début de ma carrière, j'ai beaucoup été dans ces conflits-là, justement. Je pense que, veux pas, quand on débute, on veut aussi amener sa crédibilité, asseoir sa crédibilité, démontrer son expertise. Mais ce qui arrive, c'est qu'on se met en mode convaincre. Donc, souvent, essayer de convaincre l'autre à quel point nous, on a raison et que potentiellement, lui, il a tort. Et c'est là où ce qui arrive, finalement, c'est que ça crée des fermetures. Ça crée des discours de sourds. Une des anecdotes que j'avais racontées, c'était avec notamment la définition de renseignement personnel. Donc là, si on remonte à il y a plusieurs années, c'était peut-être un peu moins compris ou il y avait plus de distinctions selon la discipline dans laquelle on venait. Et moi, j'avais énormément de débats là-dessus. Puis d'un point de vue juridique, ça m'irritait énormément parce que je me disais, voyons, les gens sont bien incompétents. Est-ce qu'ils font par exprès? Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne approche, parce que j'ai commencé à avoir une conversation avec quelqu'un, puis je me suis rendu compte qu'on parlait pas le même langage. Donc, d'où l'allusion avec le 6 versus le 9, hein, deux personnes qui regardent un 6 et un 9, puis tout dépendamment de l'angle qu'on le regarde, ça peut être un 6 ou ça peut être un 9. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'on prenait pour acquis que les autres avaient les mêmes compréhensions et les mêmes perceptions de nous. Et ça, pour moi, ça a été, je dirais, une grande révélation. Puis à partir de là, mon approche a complètement changé. Puis c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir plus d'influence, où j'ai commencé à avoir plus de fluidité aussi dans mes interactions avec les autres. Fait que j'étais plus en mode, je dépense l'énergie à essayer de convaincre les autres, mais j'étais vraiment en mode, je vais essayer de me rapprocher de l'autre. Je vais essayer de poser plus de questions pour comprendre. Ça a amené des super belle discussion.
Oui, absolument. Puis j'aime ça parce que ton histoire est similaire à la mienne. Moi, n'étant pas du côté légal, mais du côté technique. Un peu ce que tu mentionnais, on met beaucoup d'énergie sur notre connaissance technique. On veut se prouver. Puis j'ai fait exactement le même chemin que ça. Donc, je voulais me prouver. Donc, j'étais hyper bon technique. Et conséquemment, j'étais hyper rigide également. Puis là, l'autre devenait un adversaire dans lequel on essaie de gagner et non de construire. Et avec le temps, je me suis rendu compte, un peu comme toi, que c'était pas ça le bon approche, parce que le but, c'est pas de gagner. Le but est de construire quelque chose ensemble, parce qu'on est embauché par des entreprises, des clients, des choses comme ça, pour construire et non pour gagner sur ses collègues, gagner ces choses. Fait que déjà là, c'est d'amener ça plus loin et dans un environnement technique. Puis c'est pour ça que c'était très intéressant, ta conférence dans le contexte du Sécur. Technique, on va mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, tu l'as dit, sur notre compétence technique. C'est qu'on qu'on aurait dit à tort les hard skills, contrairement à ce qu'on parle de l'humain, d'un soft skill. Je vais dire peut-être que c'est un soft skill parce qu'on est des êtres mous en termes de chair et que c'est pas des machines, c'est pas rigide. Autrement, je trouve que c'est une mauvaise façon de le nommer parce que c'est pas parce que les habiletés humaines c'est un soft skill, c'est très difficile à maîtriser, surtout quand on, en tout cas, de mon expérience, à partir de mon environnement technique où j'étais en maîtrise, les autres sont mauvais, moi je suis bon, moi je suis meilleur que les autres, puis comme ça, et tranquillement à construire, à me changer, à me transformer, en étant plus ouvert à l'autre, d'essayer d'amener l'autre à parler, d'écouter l'autre et tout ça, c'est pour moi, un hard skill d'avoir fait ça, plus que, puis même à la limite, plus que ce qu'on a, les habiletés techniques ont été beaucoup plus simples pour moi de maîtrise parce qu'elles sont plus prévisibles. Et en ce sens, pour moi, l'humain est fondamentalement imprévisible et de réussir à naviguer là-dedans est beaucoup plus complexe que de naviguer dans un environnement technique.
Oui, puis tu sais, justement, le mot soft skills, en fait, à travers les dernières années, tend à changer. Donc, il y a de plus en plus d'experts, justement, qui n'aiment pas le mot soft skills. Et on parle plutôt de power skills. Et là, moi, je trouve justement que c'est intéressant parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pas quelque chose de mou, c'est quelque chose de complexe, mais qui amène vraiment une puissance, justement, dans les interactions. Dans ce qu'on peut accomplir. Puis j'aime beaucoup ce que tu as mentionné, de dire on n'est pas des adversaires, puis le but, c'est pas de savoir qui va gagner et qui va perdre. Fait que c'est là aussi, je trouve, toute la notion de partenaire d'affaires quand on est en entreprise ou même pour des consultants externes. Tu sais, prendre le temps de s'attarder aussi à cette notion-là, de dire, tu sais, la personne, c'est mon partenaire d'affaires, c'est pas mon ennemi. Donc, il y a ce changement de mindset-là aussi, là, également. Puis, tu sais, en relation d'aide, à la base, ce qu'on vient dire, c'est que on doit aller rejoindre l'autre là où il est. Et donc, pour moi, quand on fait des interventions, que ce soit en conformité, cybersécurité, ben je trouve que les mêmes principes devraient s'appliquer, c'est-à-dire comment je peux aller rejoindre l'autre là où il est avec ses connaissances, avec ses perceptions, pour créer ce terrain-là fertile, pour avoir des échanges qui vont faire en sorte effectivement qu'on va pouvoir collaborer puis co-créer ensemble. Donc, ultimement, je pense que c'est là où tout le monde va être gagnant-gagnant, là.
Oui, puis j'ai même un anecdote. De ce que tu relates, ça me rappelle un anecdote particulier. J'avais eu un collègue consultant, on était tous les deux dans le même mandat. On avait des discussions autant sur le travail qu'un peu à l'extérieur du travail, sur des projets personnels, des choses comme ça. Et dans un élan de désespérement de la personne, elle dit « On peut jamais gagner avec toi en parlant de moi. » Moi, je dis « Le but de la conversation n'est pas de gagner, le but, c'est de m'enrichir. » Fait que de cette conversation-là, je ne cherche pas à gagner. Lui, clairement, il cherche à gagner, mais il cherche à enrichir personnellement de ce que tu vas m'apporter. Et donc, chaque conversation, pour moi, elle est gagnante parce que je me suis enrichi à travers cette conversation-là, parce que ça a changé mes points de vue, ça m'a fait avancer, ça m'a fait voir d'autres choses, ça m'a fait acquérir de nouvelles connaissances. Donc, j'avais toujours cette avancée-là, mais pour cette personne-là, elle avait besoin de prouver quelque chose, malheureusement pour elle. Puis j'avais essayé un peu à ce moment-là de lui dire, ben non, on gagne à discuter, c'est pas le et puis attends, moi c'est match nul parce qu'il y a pas de gagnant dans ces conversations-là au sens l'argument est plus fort que l'autre. Mm-hmm. Il y a pas d'argument plus fort que l'autre. C'est l'amélioration. Ça revient aussi un peu, puis c'est un des aspects de la conférence que j'avais abordé, le storytelling, qui est un élément très important. On le voit aussi beaucoup, surtout ces temps-ci dans la sphère publique, beaucoup, où on a des discussions où tout le monde est campé, tout le monde est polarisé. Et on est polarisé parce qu'il y a un camp qui est très fort sur ces chiffres, ceux qui sont les faits sont comme ça, les chiffres, les réels sont comme ça. Et un camp qui, malheureusement, qu'on maltraite et qu'on traite, dans l'espace public, généralement, c'est attention les attelles, les conspis, par exemple. Eux veulent pas ne pas croire à ce qu'on dit. C'est juste qu'on les aborde avec un angle qui est défavorable à ce qu'ils écoutent parce qu'on est là avec nos faits froids et tout. Et eux ont une histoire à raconter. Et pourquoi sont allés dans cet univers-là? qui, bon, de façon factuelle, effectivement, est toxique, mais il demeure que ils sont pas là de tomber pour rien parce qu'il y a quelque chose, il y a un storytelling à ramener et justement de ça. Et ça vient boucler aussi tout le volet des biais parce que ces gens-là qu'on a tendance, ceux qui sont très rigides, ça, ont tendance à dénigrer. Ben, c'est parce qu'ils cherchent un biais de confirmation. Donc, il faut aller aussi combler tout le storytelling et nous ramener à ces éléments-là pour aider à communiquer. Puis on n'est pas obligé d'être d'accord, de partager avec d'autres, mais au moins de communiquer avec ces personnes-là et pas juste de fermer. Parce que balancer des chiffres en face de l'autre ou des faits, c'est fermer la communication. Mm-hmm. Peu importe si l'autre en face est conspire ou pas, là, on s'en va plus loin. Fait que ça vient fermer. Donc, si on veut ouvrir, puis tu l'avais très bien mentionné, le storytelling est un des meilleures approches que je maîtrise pas par ailleurs, mais qui aide justement cette ouverture-là.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, juste pour rebondir sur un élément que tu as mentionné, le but, c'est pas d'être d'accord ou de pas être d'accord. C'est-à-dire, c'est correct de se challenger, mais c'est de garder cette ouverture-là, notamment au niveau de la diversité des idées. Fait que t'en as parlé. On a tous des biais cognitifs. Et, les dernières études démontrent que c'est tellement ancré que, je veux dire, on peut pas les éliminer, ces biais cognitifs-là. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est plus on se renseigne sur le sujet, plus on peut en prendre conscience. Bien, ça, tranquillement, ça peut venir réduire, notamment, les biais cognitifs, mais on peut pas nécessairement les éliminer. Fait que, tu sais, la première étape, c'est aussi de se renseigner là-dessus. Puis, quand on parle de psychologie comportementale, quand on parle de nos sciences, ben encore là, ce que les études démontrent, c'est que l'humain étant ce qu'il est, et là, je fais une petite parenthèse, ça dépend aussi de ce qu'on appelle notre style de communication parce qu'on a chacun des styles, donc il y a des styles plus analytiques qui vont mettre peut-être un peu plus de poids sur l'aspect justement des faits, des chiffres. Mais c'est prouvé que l'humain va prendre des décisions basées notamment sur ce qu'il ressent, fait que le volet un peu émotionnel. Et le storytelling, c'est ça, c'est de dire, dans notre domaine de la cybersécurité, on le sait, là, on n'arrête pas d'amener des tendances, des chiffres, des pourcentages, temps d'hameçonnage, etc. Puis c'est correct, on en a besoin, il faut un minimum de faits, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va influencer ultimement, c'est l'aspect du storytelling. C'est-à-dire comment on peut aller chercher le volet émotionnel aussi chez les gens parce que le cerveau, c'est l'émotion qui va faire, qui va s'en rappeler. T'sais. Fait que quand on comprend le fonctionnement aussi de la mémoire, ce qui est démontré, c'est que ce qui va venir ancrer des éléments dans la mémoire, c'est notamment l'émotion qu'on va vivre en tant qu'humain. T'sais.
Oui, puis comme personne avec des cheveux blancs maintenant, quand je regarde mon passé, les éléments où je vais avoir des souvenirs sont souvent des éléments où je vais avoir de l'émotion. Je vais rarement avoir des souvenirs d'éléments factuels ou froids. Nécessairement, ça va être les émotions qui favorisent l'ancrage dans ma mémoire de souvenirs. Donc, si je me rappelle mes souvenirs d'enfance, ben, ça va être des éléments avec une émotion. Ça sera pas froid. Qu'est-ce qui va être ça? Fait que, effectivement, ça l'aide aussi à rentrer les choses et à ramener. Puis, en ce sens-là, puis c'est mon style a changé aussi, qui était très, mon style surtout d'écriture, mais et verbal nécessairement aussi, très, très froid, il y a une vingtaine d'années, à un style beaucoup plus humain maintenant qu'on ramène avec des éléments. Oui, il y a des chiffres, mais les chiffres sont en appui de l'histoire, mais l'histoire prend de plus en plus l'élément principal de la communication pour amener justement, on met des images qui sont parlantes. J'avais un exemple cocasse sur le fait de, dans le milieu de la santé, puis ça fait longtemps, d'utiliser les éléments technologiques de la télémétrie qu'on utilise, ben on l'a en santé aussi. Je parlais à des professionnels en santé, ben c'est comme les vitaux qui sont remontés, ben on a des vitaux sur les équipements technologiques de la même nature. Donc, on les surveille, puis s'il y a une déviation, comme pour l'humain, on va agir de la même façon. D'adapter notre vocabulaire dans le contexte qu'on est encore plus important. Puis donc, dans le storytelling, d'arriver à dire, OK, ben c'est ça les outils qu'on a parce que on est dans un domaine, dans votre domaine, mais voici les mêmes éléments qu'on peut rattacher. D'avoir de trouver le lieu commun. Puis ça, je fais énormément l'effort d'aller chercher chez l'autre son histoire, son vocabulaire, ses éléments. Versus d'imposer mes chiffres techniques et ainsi de suite.
Oui, puis tu l'as mentionné, oui, ça demande un certain effort parce que c'est de sortir de son propre référentiel, de ses propres réflexes. Souvent, c'est du temps idéalement qu'on veut prendre en amont. Mais ce temps-là, pour moi, c'est du temps qui est, là, je sais pas fois combien, mais le temps qu'on met, on le regagne justement dans la fluidité, dans le fait que ça crée de l'ouverture. Donc, c'est vraiment quelque chose. C'est un peu ça le but de ma conférence, c'est de sensibiliser les gens à prendre le temps de mettre ça de l'avant, d'aller se former. Tu l'as mentionné, c'est pas nécessairement naturel, c'est pas si facile que ça. C'est un peu flou, mais ça vaut vraiment la peine.
Ouais, ben c'est difficile. L'humain est complexe, puis tu le dis très bien. Puis on a tendance à résumer ça à des affaires, surtout les gens techniques. On est habitué avec les machines, c'est prévisible. Les comportements sont prévisibles. On arrive avec l'humain, c'est pas prévisible. Mais c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de l'étudier. On n'a pas pris le temps d'établir les éléments qui sont fondamentaux pour l'humain, à mon sens. Et tu dis, oui, formé. Ben oui, effectivement, je me suis fait, comme toi, j'ai pris un axe de formation personnelle. Puis là ça a l'air un peu kitsch, c'est un peu comme ça, tu disais que quand t'avais commencé, quand c'était pas populaire le yoga et la méditation, et effectivement c'est d'arriver dans un contexte, mais c'est pas des sciences molles, c'est pas des éléments mous, c'est des habiletés très complexes à apprendre, ça prend des années à maîtriser, y a rien de simple dans tout ça, mais ça l'a tellement m'ouvert les yeux personnellement sur ce genre de choses là d'apprendre à mieux communiquer, d'être capable d'établir des liens avec les autres. Professionnellement, c'est super payant là, de cette capacité-là d'être à l'écoute, puis d'être. Puis c'est drôle parce que j'ai eu cette notion-là d'un client à un moment donné. Il dit ouais, c'est comme une séance de psy, mais dans le réel, c'est un peu ça. Puis ça fait longtemps qu'on m'a fait référence celle-là. C'est revenu, j'ai réentendu récemment, mais c'est ce genre de choses-là où on est là juste dans un mode d'écoute actif avec l'autre, puis le faire parler juste avant. Puis là, ensuite, le contenu technique, les besoins vont apparaître et tout va se mettre en œuvre. Ça a l'air lent dans certains regards. Puis puis pour certains, puis j'ai déjà été dans ces chaussures-là, de trouver ça trop long. Oui, mais viens, dis-moi ce que tu veux, on va le régler vite. Les humains sont pas autant. Il y a un petit préambule qui est nécessaire de en fond, c'est pas se faire comme se faire à côté sur le bord de la rue puis se faire garager quelque chose. Ben non, on a un préambule, on dit bonjour, on demande comment ça va, qui est le rituel qu'on doit apprendre puis qu'on oublie souvent au travail et plus particulièrement en technologie.
Oui, puis mais tu sais, encore une fois, le préambule qu'on prend ou ce départ-là plus lent, souvent on gagne quand même en efficacité au fur et à mesure qu'avance le projet. Tu sais. Donc au début, on s'en rend pas compte, mais souvent on s'en rend compte après que ben ça nous a permis de mieux cibler le besoin. Tu sais, le fait d'être en mode écoute active, de poser des questions, ça nous arrive tous, je pense, dans notre domaine, que le client nous arrive en disant ben c'est ça mon besoin, c'est ça la solution que je veux. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça son besoin.
Non, mais ça, mais toi aussi, tu l'as vécu largement, mais c'est jamais la première chose que je fais, je veux telle chose. C'est OK. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? C'est quoi tes éléments qui te sont importants pour toi? Ça, dans un contexte d'une demande pure technologique ou dans un contexte cyber, quand il y a des gens qui disent, ouais, je veux tel outil technologique, c'est OK. Qu'est-ce que tu as peur? C'est quoi tes inquiétudes? Puis là, on va commencer par regarder tes inquiétudes. Ensuite, on va développer l'outil, on va sélectionner les éléments qui sont propices à toi. Donc, tu vas faire un meilleur usage pour le client, un meilleur usage ou le demandeur de son temps et de son argent sur quelque chose qui va vraiment le rassurer puis qui a un effet réel que d'acheter le dernier gizmo à la mode ou ce que son beau-frère lui a dit qu'il faudrait qu'il aille ou peu importe ce qu'il scannait. Oui, OK, éveillé la peur aussi. Puis d'ailleurs, c'est le fun de la peur parce qu'en cyber, on l'a beaucoup utilisé. C'est de l'émotion. Mais c'est pas de l'émotion positive. Ça faisait référence aussi à un segment dans ta présentation. Puis là, je rebondis, là, je suis un peu aléatoire, là, mais sur le volet de la peur, parce que c'est largement utilisé, mais c'est pour moi, dans mon expérience, c'est toxique à long terme. Puis même à moyen terme, c'est très toxique. On va avoir une action immédiate, oui. mais on n'aura pas construit le lien. Puis ça, j'aime ça t'entendre un peu là-dessus de ton expérience, puisque ce que tu as pu.
Oui, bien, la peur, faut faire attention. Ce que je veux dire par là, c'est que la peur, ça nous met en mode survie en tant qu'humain. Fait que c'est ce qui fait souvent qu'on paralyse, puis c'est prouvé que la peur génère le stress, qui fait en sorte que notre mode de décision il fonctionne pas de la même façon. Fait que notre cerveau est vraiment affecté par toute la réaction biochimique de la peur. Fait que tu sais, en cybersécurité, souvent c'est des éléments qui peuvent amener la peur. Donc il y a un juste milieu à trouver. Puis ce dont j'avais parlé, c'était lorsque on veut, par exemple, influencer des gens. Encore là, au niveau des biais cognitifs, au niveau du fonctionnement du cerveau, un des éléments en lien avec la peur, c'est de dire que l'humain va davantage trouver la perte comme quelque chose de, tu sais, qui génère une émotion plus forte. Donc, souvent, si on veut amener des gens à adhérer à une idée, ben c'est davantage de mettre l'emphase. Ben si les gens vont pas de l'avant, voici potentiellement les pertes ou ce que vous allez manquer. Versus, souvent, on a tendance à mettre l'accent sur les bénéfices. T'sais, voici ce que vous allez gagner, par exemple, si vous faites affaire avec moi. Donc ça a été démontré, ça a été prouvé. Fait que c'est-à-dire que l'influence va être plus grande si on met plutôt de l'avant la perte. Mais le bémol que je mettrais, c'est qu'il y a quand même une façon de l'amener, parce que si on amène trop les gens dans la peur, ben là, c'est contre-productif, parce que on va amener les gens dans un niveau de stress, puis là, le mode décisionnel sera plus aussi efficace. Fait que, tu sais, c'est des mini-éléments, puis encore une fois, qui sont simples mais complexes. C'est là de dire, OK, il est où le juste milieu entre, je parle potentiellement des pertes sans créer non plus la panique. Donc, c'est notamment un des éléments que j'avais abordé là, dans la conférence.
Oui, sur comment on va framer la mise en contexte, puis comment on véhicule le message pour arriver à l'objectif. Moi, j'ai fait un bon tour de ta présentation. Est-ce que tu as des éléments que tu aimerais rebondir, qu'on n'a pas creusé?
Bien, ça serait peut-être plus, je te dirais, un mot de la fin. Tu sais, justement, les gens peuvent se poser la question, bien, par où commencer, là, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puis moi, je trouve que dans notre domaine, les gens que j'ai rencontrés, un des points en commun, je trouve que c'est notre curiosité. On est dans des domaines où la technologie évolue, on travaille avec des gens qui viennent de différents backgrounds. Je trouve que la curiosité, c'est quelque chose qui est assez commun. Je dirais partez de ça, dans le fond. Fait que si vous êtes curieux sur, tu sais, comprendre les nouvelles technologies, curieux parce que vous voulez aller creuser davantage votre expertise, bien, c'est cette même curiosité-là qui va vous permettre, justement, d'avoir l'ouverture dont on parlait. Donc, quand on parle de réduire l'écart entre nous puis une autre personne, bien, pour moi, c'est d'avoir cette curiosité-là, de se dire, OK, la personne en face de moi, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'elle pense comme ça, qu'est-ce qui fait qu'à la suite de ce que j'y ai mentionné, bien, elle n'est pas en accord. Fait que d'avoir la curiosité, déjà là, je trouve, ça nous met en mode ouverture plutôt qu'en mode, soit de se sentir attaqué. Donc, ça serait le petit truc que je donnerais.
Un petit truc de la fin. Excellent, oui. Puis, tu as mis des mots sur ma façon normale d'agir avec l'autre, de me poser des questions sur l'autre et pourquoi. Là, il pose le geste et ainsi de suite, donc de m'amener dans un questionnement et ça facilite le fait de se mettre dans les chaussures de l'autre, d'ailleurs, cette curiosité-là d'arriver avec ça. Je te remercie énormément, c'était très agréable de te revoir cette année au Sécur, puis j'aime toujours ces échanges-là, pas cet événement, justement, qu'on peut aller un petit peu plus loin par rapport à ce que tu as présenté.
Et merci infiniment.
Merci. We're gonna